Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Comme c'est le cas à certains moments de l'année, la semaine qui vient, entre les deux tours des élections municipales, nous propose un agenda très chargé avec des événements musicaux en tout genre. Il va y avoir de la guitare classique, du piano seul, un concert jeune public sur la musique de Ma mère loi de Maurice Ravel et la passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach que donne la maîtrise de Toulouse et les passions de Montauban samedi et dimanche prochain. Je rappelle aussi que vendredi dernier, Tarmo Peltokoski faisait son retour à la direction de l'Orchestre National du Capitole et que le lendemain, Dougan Sokiev dirigeait lui l'Orchestre Philharmonique de Radio France lors d'un concert du cycle des grands interprètes. Voilà qui vous donne une idée du copieux sommaire de cette émission pour laquelle je suis heureux de pouvoir compter sur mon ami Serge Chosy, rédacteur et cofondateur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Nous allons tout de suite revenir sur les concerts de ces derniers jours. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue Serge et merci d'être au rendez-vous pour co-animer cette émission avec moi. Nous allons donc revenir d'abord sur le concert donné vendredi par l'Orchestre National du Capitole à la Halle aux Grains, lors duquel Tarmo Peltokoski faisait son retour plusieurs mois après sa dernière apparition à la direction de l'ensemble symphonique toulousain, à la suite, je le rappelle, d'un problème de santé. Ce retour était très attendu par le public, mais aussi par les musiciens, qui étaient un peu orphelins de leur directeur artistique. Comment se sont passées les retrouvailles avec le jeune chef finlandais, sachant que participait aussi à ce concert le pianiste japonais Mao Fujita?
Eh bien, avec un accueil très chaleureux du chef d'orchestre, effectivement, aussi bien, comme vous avez dit, de la part du public que de la part des musiciens. Et donc, ça a été un concert vraiment intéressant et un concert avec un programme totalement original. Alors vraiment consacré à un seul pays, la Pologne, mais la Pologne d'hier et la Pologne d'aujourd'hui, en quelque sorte. C'était vraiment très intéressant, avec au cœur du programme l'œuvre la plus classique qui soit, un concerto de Chopin, le concerto pour piano numéro 1, mais qui était encadré par deux œuvres du XXe siècle radical, on peut dire, très intense. La première œuvre était signée Christophe Penderecki. Elle a pour titre « Le train à la mémoire des victimes d'Hiroshima ». Et c'était cette œuvre qui ouvrait le concert, qui a reçu son titre finalement, et sa vocation mémorielle en 1961 seulement. Alors, c'est une partition très particulière, dont j'ai appris que les barres de mesure sont supprimées. Il n'y a pas de barres de mesure, et tout est basé sur l'écoulement du temps, sur le temps. Il y a une durée estimée par le compositeur, c'est 8 minutes 37 secondes, et il faut suivre l'écoulement de ce temps. Et alors, certains passages ne sont même pas dirigés. Le chef a les bras le long du corps, il laisse faire les musiciens, comme s'il s'agissait de cadences que les musiciens jouent. Donc, c'est une œuvre qui se reçoit un peu comme un concentré d'angoisse, un chant funèbre en quelque sorte. Alors, ça a été vraiment très apprécié par le public, malgré la radicalité de l'écriture. Mais à la fin, alors c'était caractéristique, Tarmo Peltokoski a brandi la partition de l'œuvre avec ferveur pour que les applaudissements s'adressent au compositeur plus qu'à lui-même. Et puis ensuite, eh ben, le contraste, ça n'était pas mince avec la partition suivante, qui était le concerto pour piano numéro 1 en mi mineur de Frédéric Chopin. En réalité, c'est le second qui a été composé par Chopin de manière chronologique. Et là, c'était interprété en soliste par un jeune pianiste japonais, Mao Fujita, que je ne connaissais pas. C'est un pianiste d'une qualité d'émotions incroyables, avec d'abord un dialogue entre le soliste et l'orchestre qui atteint, on peut dire, les plus hauts niveaux d'échange. Mais surtout, le jeu de Mao Fujita est d'une extrême sensibilité. C'était d'une douceur, avec des plages de tendresse et de poésie qui n'empêchent pas la virtuosité, évidemment. Alors, techniquement, il n'y avait rien à dire. Mais la virtuosité n'est jamais gratuite. C'est toujours musical. Il donnait à l'œuvre des plages de tendresse et de poésie qui contrastent avec un accompagnement orchestral qui, par moments, est très vigoureux. Hein. Alors, il a joué la romance un peu comme pour préparer le rondo final. La romance est très courte hein, dans ce concerto, le mouvement central. Et donc, le rondo pétillait en quelque sorte de vivacité, mais ne cédait jamais à une quelconque facilité. Donc, c'est vraiment un artiste, hein, plus qu'un virtuose, même si la virtuosité est évidente. Hein. Donc il a été vraiment très acclamé et il a offert un bis, on peut dire aux couleurs pastel, puisqu'il a joué la valse intitulée La plus que lente de Claude Debussy, de nouveau une plage de poésie de ce jeune japonais, hein, il n'a même pas 30 ans.
Oui,
donc.
Qui avait été entendu, me semble-t-il, à Piano Jacobin, il y a 2 ans, 3 ans. Il est déjà venu à Toulouse,
oui,
à Piano
voilà.
Jacobin, je pense.
Oui. Et puis toute la seconde partie est consacrée de nouveau à la Pologne d'aujourd'hui, en quelque sorte. C'est la symphonie numéro 3 de Witold Lutosławski. Elle est composée, soi-disant, de 2 mouvements enchaînés, mais qui sont précédés d'abord d'une introduction et d'un épilogue, et suivis d'une coda. Alors, c'est une architecture véritablement labyrinthique, hein, qui s'ouvre, alors, dans le premier mouvement, avec un morcellement vraiment inquiétant. Hein. Là aussi, l'angoisse emprunte là des chemins contrastés. Il y a des tutti explosifs qui contrastent avec les murmures les plus imperceptibles. Donc il y a des contrastes étonnants. Et comme dans l'œuvre de Penderecki, là aussi certains passages ne sont pas dirigés. Et donc l'initiative de l'exécution de ces passages est confiée aux musiciens eux-mêmes à travers un concept que le compositeur a qualifié d'aléatoire contrôlé. Vous voyez, ça signifie que l'écriture est quand même radicale. Hein. On a l'impression, lors de sa progression, que la partition se construit puis se déconstruit. C'est vraiment étrange. Et l'impact sur les spectateurs, auditeurs, s'est avéré incroyablement fort. Elle a été acclamée, cette symphonie, et comme dans l'œuvre de Penderecki, là aussi, Tarmo Peltokoski a brandi la partition sur laquelle, encore une fois, il a tenu à concentrer tous les applaudissements. En outre, il a vraiment remercié très chaleureusement tous les musiciens qui, à leur tour, l'ont ovationné pour fêter un peu ce retour.
Ils étaient tous contents de se retrouver.
Voilà. Donc le lien ne s'est pas rompu, il est largement rétabli.
Bon concert, et comme nous ne devrions pas entendre la 3e symphonie de Witold Lutosławski de sitôt, je vous propose d'en réécouter un extrait. C'est un des mouvements intitulés Vivo, le 3e. un des passages intitulés Vivo de la 3e symphonie de Witold Lutosławski, l'une des trois œuvres au programme du concert donné vendredi par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Tarmo Peltokoski. Le prochain rendez-vous avec la Phalange toulousaine est programmé ce dimanche 22 mars à 11h à la Halle au Grain. C'est un concert dit en famille, autrement dit pour le jeune public, que nous allons vous présenter tout à l'heure en seconde partie d'émission. Et donc le lendemain, samedi 14 mars, encore à la Halle au Grain, le public toulousain retrouvait le prédécesseur de Tarmo Peltokoski à la direction artistique de l'Orchestre du Capitole. Tougan Sokiev était en effet invité par le cycle des grands interprètes à diriger l'Orchestre philharmonique de Radio France lors d'un concert où se produisait aussi un pianiste invité. Serge, rappelez-nous qui était ce musicien grand pianiste.
Ce grand pianiste, c'est Yefim Bronfman, natif de Tashkent, en Union soviétique, mais qui est maintenant à la fois israélien et américain. Il a la double nationalité. Donc, lui était là pour jouer en soliste le concerto pour piano de Robert Schumann. Mais Tougan Sokiev, donc, est chaque fois accueilli avec enthousiasme par le public et par les musiciens, là aussi. Rappelons quand même qu'il était déjà venu au cours de cette saison des grands interprètes à la tête du Münchner Philharmoniker. Et donc, c'était sa deuxième venue à Toulouse et il vient toujours avec un grand plaisir. Alors, il a commencé son programme avec une œuvre, là aussi très contemporaine, puisqu'elle est signée d'une compositrice sud-coréenne, Eun Suk Jin, une œuvre qui s'appelle Frontispice. C'est une œuvre très particulière, qui s'écoute très facilement, puisque ce n'est pas une écriture très radicale, comme c'était le cas pour les œuvres polonaises dont on vient de parler. Mais il s'agit là d'un voyage au sein de l'histoire musicale du XXe siècle. Alors, c'est un déploiement qui est très coloré de l'orchestration, mais elle est balisée, cette œuvre, de référence à quelques grandes signatures de la période récente de composition, de production marquante. Il ne s'agit pas de citations. Ce ne sont pas des citations d'œuvres musicales du passé, mais plutôt des allusions stylistiques à quelques signatures des grands compositeurs. Et alors, en quelques 8 minutes à peine que dure l'œuvre, on détecte quelques références à Richard Strauss, à Igor Stravinsky, à Alexandre Scriabine ou même Piotr Ilitch Tchaïkovski. On détecte ça, mais il ne s'agit pas de thèmes signés par ces compositeurs, mais de styles. Donc c'est un peu des allusions un peu dissimulées dans une orchestration qui est rutilante, qui est vraiment très riche et qui est très bien assumée par l'orchestre et Tougan Sokiev. Cet orchestre philharmonique est un magnifique orchestre, donc on l'a déjà vu à Toulouse évidemment, mais c'est vraiment un très bel orchestre, très coloré, avec des solistes de premier plan. Ensuite, donc, Yefim Bronfman est venu pour interpréter le concerto pour piano et orchestre de Robert Schumann, une des grandes œuvres du piano romantique, puisque ça fait partie des grands concertos de l'époque. Ce qui a d'abord impressionné, c'est le côté très limpide du jeu de Yefim Bronfman, qui établit vraiment un beau dialogue avec un orchestre qui est riche, alors riche en solos instrumentaux, c'est l'œuvre qui le veut, avec notamment un magnifique solo de hautbois, un autre très beau solo de clarinette, magnifiquement joué par les musiciens de l'orchestre, et avec cette opposition qui a bien été soulignée dans le premier mouvement, vous savez, Allegro affettuoso, qui est identifiée comme l'opposition entre deux personnages fictifs qui sont imaginés par Schumann et qui interviennent dans plusieurs de ses œuvres, c'est Eusebius et Florestan, l'un étant vif et animé et l'autre étant très rêveur. Très bien caractérisé musicalement par cette interprétation. Alors l'intermezzo central, ils l'ont joué un peu comme s'il s'agissait d'un récitatif qui prépare le final Allegro Vivace, qui est là d'une réjouissante vigueur. Donc ça a été très acclamé, évidemment, là aussi. Et donc Yefim Bronfman a offert un bis d'un tout autre caractère, puisqu'il s'agit de l'étude numéro 2 en mi bémol majeur, Andante Capriccioso de Franz Liszt, d'après le 17e caprice de Paganini. Donc l'œuvre originale est pour violon, et là c'est l'extrême virtuosité qui est au service d'une musique vraiment pétillante, explosive. Et toute la seconde partie du concert, alors là, est consacrée à la version originale de 1911 de Petrouchka d'Igor Stravinsky. Alors, cette musique, ça ne surprendra personne, on a l'impression qu'elle coule dans les veines de Tougan Sokiev. C'est vraiment son grand répertoire. Et donc, sous sa direction, qui est à la fois précise et intense, le filard, puisque c'est comme ça qu'on appelle l'orchestre souvent, là, brille vraiment de mille feux et les quatre tableaux de la partition se succèdent dans une atmosphère à la fois joyeuse et vraiment très pétillante, très amusante. C'est une partition révolutionnaire à l'époque, hein, lors de sa création, mais qui est toujours aussi à l'avant-garde, en quelque sorte. On admire aussi l'humour avec lequel le chef a souligné certaines interventions instrumentales, comme celle du tuba, à un moment, ou l'ensemble de la petite harmonie. Et puis, avec cette citation de « Elle avait une jambe de bois », et donc cette chanson de Dranem de l'époque de la création de Petrouchka. Et donc, ça a été une ovation enthousiaste qui a salué cette exécution, mais vraiment extraordinaire. Alors là, on a vu que Tougan Sokiev, là aussi, ne cessait de remercier chaque musicien soliste, chaque pupitre. Et à son tour, il a été acclamé par l'orchestre. Donc, à l'évidence, le courant passe parfaitement bien entre eux.
Tougan Sokiev, qu'on devrait revoir la saison prochaine, en tenir le pari que ce soit aux grands interprètes ou avec l'Orchestre du Capitole. Nous allons réécouter Yefim Bronfman dans le premier mouvement Allegro affettuoso du concerto pour piano de Robert Schumann. Le premier mouvement Allegro affettuoso du concerto pour piano de Robert Schumann, interprété par Yefim Bronfman, le soliste invité du récent concert des grands interprètes, dont le prochain rendez-vous est fixé lundi 23 mars à la Halle aux Grains, avec deux grands de la scène jazz internationale, le pianiste Brad Meldow et le contrebassiste Christian McBride. Lundi, à Saint-Pierre-des-Cuisines, les musiciens des Clés de Saint-Pierre proposaient leur avant-dernier concert de la saison. Le programme était sous-titré « Cordes et lames » et notre invité de la semaine dernière, le percussionniste Jean-Sébastien Borsarello, nous l'avait présenté à Mélomanie. Il avait la particularité de réunir un quatuor à cordes avec des percussions. Serge, vous avez assisté à cette soirée musicale pour le moins originale. Vous allez pouvoir nous rappeler qui étaient les cinq musiciens présents sur le plateau et les œuvres qu'ils ont jouées.
Eh bien, il s'agit de deux violonistes, Fouki Fougier et Siméon Labouret, de l'altiste Hugo Vaqueta et du violoncelliste Thomas Dazan. Donc, ces quatre musiciens vraiment de grand talent qui se sont démenés au cours de la soirée pour affronter, je mets des guillemets, à un instrument à percussion, en fait deux instruments à percussion, puisque deux de ses œuvres étaient jouées au marimba, par Jean-Sébastien Borsarello, évidemment. Le marimba, je rappelle qu'il s'agit d'un xylophone à résonateur et qui a pour origine l'origine latino-américaine. Hein. Là, les deux œuvres extrêmes étaient jouées au marimba et puis l'œuvre centrale était jouée au vibraphone. La première œuvre qui était interprétée ce soir-là, c'est la suite populaire espagnole de Manuel de Falla, évidemment dans une transcription. L'œuvre, elle était initialement composée pour voix et piano, sous le titre « Siete canciones populares españolas », bon, c'était donc des chansons. Et la suite instrumentale, eh ben, elle a été d'abord transcrite pour voix et guitare. Et c'est à partir de cette version que Jean-Sébastien Borsarello a remplacé la guitare par le marimba. Et c'était très convaincant. Les cordes reprenaient les parties vocales. Alors, de 6 seulement des 7 mélodies initiales. Et donc... les cordes dialoguent avec le marimba pour évoquer, bah, évidemment, quelques caractéristiques du folklore espagnol, puisque les titres de ces 6 volets, c'est El Paño Moruno, Nana, Canción, Polo, Asturiana et Rota. Et donc, elles se succèdent dans une adaptation vraiment très spécifique de l'instrumentation. En particulier, on admire le beau solo de violoncelle de Nana, qui est une berceuse. Et donc, c'était vraiment très bien fait. Ou celui du violon de Canción, qui est là très virtuose et qui a été magnifiquement joué par la soliste en question. Et dans la Rota finale, alors, violon, alto, violoncelle ont alterné dans leur dialogue avec le marimba. Alors, chaque pièce avait une composition instrumentale différente. Hein. Il y avait toujours le marimba, mais quelquefois c'était avec un seul instrument à cordes, quelquefois avec deux, quelquefois avec trois. Ensuite, nous avons entendu la seule œuvre originalement composée pour cette association instrumentale, ce sont les danses de prêles que nous avait présenté Jean-Sébastien Borsarello la dernière fois, au cours de la dernière émission, du compositeur français Étienne Perruchon. C'est un compositeur qui est principalement connu pour ses musiques de films. Et en fait, il a écrit ces 4 danses, à la fois avec des rythmes contrastés, il les a écrites directement pour vibraphone et trio à cordes. Et là, on a vraiment apprécié l'association des sonorités métalliques du vibraphone qui se marie parfaitement avec les cordes. L'écriture de la pièce est très variable d'une danse à l'autre. On remarque en particulier le caractère très jazzique de la troisième pièce, ainsi que cette espèce de vitalité virevoltante de la quatrième. Donc, c'était vraiment une découverte intéressante. Et puis, la dernière œuvre de ce programme, si ça n'est pas une découverte, c'est une adaptation, de nouveau due à Jean-Sébastien Borsarello, de la transcription pour quatuor à cordes et marimba de Las Cuatro Estaciones Porteñas d'Astor Piazzolla. Alors, ça a été traduit en français comme les 4 saisons de Buenos Aires, puisque les Porteñas, ça veut dire les habitants de Buenos Aires. Et donc, la version présentée a été transcrite à partir de l'adaptation pour orchestre à cordes de l'œuvre originale, qui comprenait évidemment un bandoneon à l'origine, instrument mythique du tango argentin. Cette transcription tient magnifiquement bien la route, hein, donc c'était très vivant, très animé, avec des passages incroyables, avec des véritables citations de Vivaldi, un petit clin d'œil aux 4 saisons plus connues encore, celle de Vivaldi, évidemment. Des citations, alors là, cette fois, carrément les notes de l'œuvre de Vivaldi. Hein. Ça a été un bon moment avec des alternances d'énergie, de langueur, de nostalgie. Vraiment une transcription intéressante dont il faut féliciter, encore une fois, Jean-Sébastien Borsarello. Il n'y a pas eu de bis, il y a eu simplement 2 reprises, enfin c'était des bis, mais 2 reprises des saisons qui ont été...
2 rappels, on va dire comme ça.
2 rappels, voilà.
Et vous avez aussi rappelé, Serge, lors de ce concert, Corps et l'âme a été joué, entre autres, la suite populaire espagnole de Manuel de Falla. Voici Rota, la 6e pièce de cette très belle œuvre. Thank you. Rota, sixième pièce de la suite populaire espagnole de Manuel de Falla. Il reste encore un concert dans la saison 25-26 des Clés de Saint-Pierre. Et il a lieu le lundi 11 mai à 20h, mais à l'auditorium du musée des abattoirs pour un programme sous-titré « Cuivre martelé ». Voilà pour ce retour arrière. Petite virgule musicale maintenant, avant de nous retrouver dans quelques secondes pour notre rubrique Agenda. À tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
Il y a pas moins de 5 concerts à vous annoncer dans l'agenda de la semaine. Et nous allons commencer avec les deux récitals que donne le tout jeune pianiste Étienne Rall, vendredi 20 mars à 18h et samedi 21 à 16h à l'amphithéâtre d'Espax de l'Université Toulouse-Capitole. Étienne Rall est originaire de Gramat dans le Lot et il est passé par le conservatoire à rayonnement régional de Toulouse. Il est actuellement étudiant au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Et il a la particularité, Serge, d'être non-voyant.
Exactement, ce qui est admirable, incroyable, qu'il puisse mener une carrière de grand musicien, hein, vraiment. Il vient de fêter ses 18 ans et il a déjà une réputation largement méritée. Il a eu une enseignante aveugle qui s'appelle Sylvie Fontebasso. C'est elle qui lui a enseigné le braille musical, grâce auquel il peut mener sa carrière. Alors, après l'obtention en juin 2024 de son diplôme d'études musicales, mention très bien à l'unanimité, avec les félicitations du jury, on voit que vraiment la qualité est au rendez-vous. Eh ben, Étienne est admis directement en classe de première TMD au lycée Saint-Sernin de Toulouse. Et ensuite, eh bien, il s'est préparé au concours d'entrée au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, où il suit les études là. Et
il est dans la classe de Marie-Joseph Jude.
Exactement.
Comme Constant Després, un autre Toulousain.
Voilà, exact. Une grande pianiste également. Il est le seul élève non-voyant du Conservatoire supérieur de Paris, tout de même.
Je me posais la question, je n'ai pas de souvenir de grands pianistes classiques,
non,
aveugles,
c'est
à
vrai.
Part Rodrigo quand même, Joaquín Rodrigo,
oui, voilà, oui.
Qui était pianiste à la base.
Mais qu'on n'a pas vu à Toulouse. Hein.
Non, qu'on n'a pas vu à Toulouse, mais qui était non-voyant également. Alors, oui, il y en a beaucoup dans le jazz, en revanche.
Ah oui, beaucoup. Hein.
Art Tatum, par exemple.
Ben, oui.
Mais Lenny Tristano, et puis, bon, c'est Ray Charles, pour ceux qui aiment ce genre de musique. Il y a eu Moondog aussi, il y a quelques années, rappelez-vous, il y avait une rétrospective Moondog.
Oui.
Voilà, mais Étienne Rall, qui fait un parcours magnifique jusqu'alors, vraiment. Hein.
Ah oui, mais d'ailleurs, dans son CV, on s'aperçoit qu'il a participé au festival Passe ton bac d'abord,
oui,
en 2019, et puis à la soirée Musidora de Carole Beffa en 2021, au festival Musique dans la rue d'Aix-en-Provence, etc. Donc, c'est un pianiste très actif, hein, et il a joué en récital dans le cadre de Classique Cahors, à Perpignan, à Serré. Bon, donc, il a vraiment une activité très riche. Et depuis 2022, il participe chaque année à Paris au concert de gala de l'association Valentin Ahuy, donc en soutien au braille musical, justement, aux côtés de Jean-Eflam Bavouzé, de Pascal Amoyel et de Bernard Dascoli. Donc, il est en bonne compagnie, là.
Oui, et il a même eu droit déjà à un documentaire sur lui, tourné en 2024 par une écrivaine et réalisatrice qui s'appelle Hélène Jousse.
Voilà.
Le documentaire a pour titre Étienne Rall ou L'île joyeuse.
L'île joyeuse.
Et il est toujours visible sur France Télévisions jusqu'en avril 2026 en replay.
Exactement. France Musique lui a également consacré un portrait le 10 février 2026. C'est Louis-Valentin Lopez qui lui a consacré ce portrait dans la matinale de Jean-Baptiste Urbain. On parle beaucoup de lui et donc il sera à Toulouse le vendredi 20 mars à 11h. Non, là c'est une rencontre-débat avec lui.
Une rencontre-débat à 11h, effectivement. Les concerts sont à 18h le vendredi 20 mars et à 16h le samedi 21. Donc à l'amphithéâtre d'Espax de l'Université Toulouse-Capitole.
Oui.
Alors le programme, c'est Chopin, Beethoven, Schubert. Chopin, il va jouer le nocturne numéro 13 en ut mineur, opus 48 numéro 1. Beethoven, ce sera la sonate pour piano numéro 23 en fa mineur, opus 57, également connue sous le nom Appassionata. Schubert, nous aurons 4 impromptus, opus 90, Deutsch 899. Et de nouveau Chopin à la fin, avec la polonaise numéro 6 en la bémol majeur, opus 53, appelée aussi Héroïque. Un programme qui est très
exigeant,
très,
hein,
costaud, j'allais dire.
Ah oui, très exigeant. Hein.
Alors, Étienne Rall va jouer le nocturne numéro 13 en ut mineur, opus 48, numéro 1 de Frédéric Chopin lors de ses concerts des 20 et 21 mars. C'est la pièce que je vous propose d'écouter maintenant sous ses doigts pour vous faire découvrir le jeu de ce jeune pianiste très prometteur. Le Nocturne numéro 13 en ut mineur, opus 48, numéro 1 de Frédéric Chopin, l'une des pièces au programme des récitals que donne le jeune pianiste Étienne Rall à l'amphithéâtre d'Espax de l'Université Toulouse-Capitole les vendredis 20 mars à 18h et samedi 21 à 16h. L'entrée est libre pour ces deux concerts, mais je précise que la réservation est obligatoire au préalable. Vendredi 20 mars, il y a un autre concert à ne pas rater, celui du guitariste espagnol Carles Trepat. Celui-ci est à 20h, salle du Sénéchal à Toulouse, et c'est la saison Toulouse Guitare qui le propose. Serge, présentez-nous ce musicien dont c'est la première venue à Toulouse, il me semble.
Oui, alors c'est le quatrième concert de la saison Toulouse Guitare. Et donc, Carles Trepat est né en Espagne, à Lérida, en 1960. Il a débuté ses études de guitare à l'âge de 13 ans et puis en 1976, il a assisté au dernier cours, ça c'est important, de guitare classique donné par Emilio Pujol qui fut l'étudiant de Francisco Tárrega. Longue tradition espagnole. Ah oui. Et dans une époque où la puissance sonore tente à s'imposer, Carles Trepat a pris le parti de garder l'intimité de la beauté pure des instruments anciens. Donc il joue des guitares anciennes, diverses guitares anciennes adaptées au répertoire qu'il aborde.
Des guitares anciennes espagnoles.
Ah oui, espagnoles, absolument. Bon, il fait parler un peu en quelque sorte des racines les plus nobles de la guitare espagnole sur les instruments anciens en cherchant les traditions d'interprétation perdues et donc il essaie de faire revivre les musiques des grands maîtres. Il donnera ce récital avec des œuvres, alors on n'a pas le détail des pièces, mais avec des œuvres de Domenico Scarlatti, Miguel Garcia, Francisco Tárrega, donc, Miguel Llobet, Emilio Pujol et Ángel Barrios. Pas mal de noms.
On retrouve Tárrega et Pujol.
On retrouve, et voilà, dans sa tradition en quelque sorte. Donc ça sera vraiment très intéressant.
Et comme le veut une autre tradition, celle-ci de Toulouse Guitare, il y a une première partie avec, cette fois-ci, une jeune guitariste issue de la formation musicale toulousaine.
Je voudrais de nouveau saluer l'intérêt de cette tradition établie depuis la toute première des saisons de Toulouse Guitare, donner sa chance à un jeune guitariste en cours d'études. Et là, en l'occurrence, il s'agit de Dorine Guilbeault, qui a débuté ses études à l'âge de 5 ans à Perpignan. Et puis elle poursuit ses études depuis 3 ans à l'ISDAT auprès de Benoît Albert, de Rémi Jousselme et d'un certain Thibaut Garcia, là aussi.
Elle est entre deux bonnes mains, cette jeune fille.
Ah, absolument. Et là, elle a prévu de jouer des pièces de Urkuzunov, de Narvaez et d'Antonioni. Donc voilà les trois compositeurs qui ont été signalés. Alors on ne sait pas quelles œuvres de ces compositeurs seront jouées, mais en tout cas voilà ce qu'elle jouera en première partie.
Dorine Guilbeault qui avait déjà fait une première partie il y a quelques années. C'est intéressant d'y retrouver deux ou trois ans après pour voir leur cheminement et le parcours qu'ils ont accompli entre-temps.
Toulouse Guitare fait ça très souvent. Oui. On revoit des anciens étudiants et on peut vraiment constater l'évolution de leur style et de leur manière de jouer.
Vous allez pouvoir découvrir les sonorités de la guitare de Carles Trepat en écoutant son interprétation du très beau El Noi de la Mare de Miguel Llobet. Thank you. El Noy de la Mare, très jolie pièce de Miguel Llobet, jouée par Carles Trepat, le grand guitariste espagnol, est en concert vendredi 20 mars à 20h, salle du Sénéchal, à l'invitation de la saison Toulouse Guitare, un très beau moment en perspective. La maîtrise de Toulouse fête les 20 ans de sa création en 2026, alors que les passions de Montauban célèbrent dans le même temps leurs 40 ans. L'occasion était donc belle de les réunir lors d'un concert anniversaire autour d'une grande œuvre, et c'est ce qui est présenté au public toulousain, samedi 21 mars à 20h et dimanche 22 à 16h, les deux fois Saint-Pierre-des-Cuisines. L'œuvre qu'ils ont choisie pour ce double anniversaire, c'est rien moins que la Passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach, Serge.
Ah oui, tout de même, un chef-d'œuvre universel, on peut dire. Ça va faire vivre la musicalité de cette maîtrise, dont quand même, il faut rappeler qu'en 2017, elle a reçu le prestigieux prix Bettencourt pour sanctionner la qualité du travail effectué par Marc Hopstadt, son créateur, chef anglo-français, on peut dire.
Hein. Oui, parce qu'il est là depuis 20 ans, bah, depuis que la maîtrise existe, c'est lui qui l'a créé.
Et donc, il est, on peut dire, un expert en la matière. Ah, oui. Hein. De toute façon, l'Angleterre est un expert en matière de...
C'est le pays des maîtrises. De maîtrise et de chorale.
Et de chœur, oui. Donc, Marc Hopstadt a réussi à obtenir un cast de solistes, de chanteurs. Alors, l'orchestre est évidemment l'orchestre baroque des Passions, dont le directeur est Jean-Marc Andrieux, on connaît bien. Hein. Il y aura dans cet orchestre les talents de Yasuko Bouvard et Laurent Lochenadec, bien connu des Toulousains et ailleurs. Et donc, les solistes, ce sont, alors, dans le rôle fondamental et important de l'évangéliste, pas moins que Cyril Dubois, oui. Grand ténor, oui. Hein. Et puis Pierre-Yves Crasse, Lisa Oriol-Chaïb, Lucille Reims, Marius Vidal et Jean-Christophe Lagnès. Voilà la distribution.
Très très beau casting.
Ah oui, absolument. Et donc, je voudrais quand même signaler que ce concert exceptionnel est organisé en partenariat avec le Conservatoire de Toulouse, dont le directeur est Christophe Millet, et l'Association pour la promotion de la maîtrise de Toulouse.
Voilà, bah, tout est réuni pour qu'on passe de très beaux moments. Oui. Alors, la Passion, selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach, commence par le célèbre chœur d'ouverture, Herr unser Herrscher. Nous allons l'écouter maintenant dans une version de la Netherlands Bach Society.
Thank you.
On the Hirsch, cœur d'ouverture de la passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach, dans une version de la Netherlands Bach Society. C'est donc l'œuvre que donne la maîtrise de Toulouse et les passions de Montauban, samedi 21 mars à 20h et dimanche 22 à 16h à l'auditorium Saint-Pierre des Cuisines. Et ce même dimanche 22 mars, deux autres concerts sont programmés à Toulouse, dont un dès le matin, le concert en famille de l'Orchestre National du Capitole, à 11h à la Halle aux Grains. C'est une proposition de la série de concerts jeunes publics avec la conteuse Élodie Fondacci qui va raconter Ma mère Loi, Serge, et le fond musical de ces histoires, c'est la musique de Maurice Ravel, du même nom.
Exactement. Ma mère Loi, c'est l'un des grands cycles de Maurice Ravel. Et donc, c'est dans le cadre des concerts en famille que sera présenté ce spectacle avec l'Orchestre donc, National du Capitole sous la direction de Philippe Béran, avec la narration donc, d'Élodie Fondacci, la musique de Maurice Ravel et une scénographie d'Ève Sarfati avec une mise en scène de Léa Sarfati. Donc voilà les caractéristiques de ce spectacle.
Ah, tout ça est inspiré essentiellement des contes de Perrault, mais pas seulement. Il y a La Belle au bois dormant, il y a La fée Carabosse, La Belle et la Bête, il y a Le Petit Poucet, féerie extraordinaire, magnifiée par la musique de Maurice Ravel. Ah, oui. Et pour illustrer ce concert, nous allons écouter un extrait de Ma mère Loi de Maurice Ravel, Le Jardin féerique, l'apothéose, dans une version de l'Orchestre National du Capitole, enregistrée avec Michel Plasson à la direction. Le Jardin féerique, l'apothéose de Ma mère Loi de Maurice Ravel dans une version de l'Orchestre National du Capitole dirigé par Michel Plasson. Le concert en famille de l'Orchestre National du Capitole, Élodie Fondacci raconte Ma mère Loi, a lieu le dimanche 22 mars à 11h le matin et également à 16h l'après-midi à la Halle aux Grains. Et puis donc le même jour à 15h à l'Opéra National du Capitole, l'opéra Armide de Jean-Baptiste Lully est donné en version concert par le Poème Harmonique, l'ensemble de Vincent Dumestre, avec 10 chanteurs que Serge va se faire un plaisir de nous présenter, non peut-être pas tous, mais au moins les principaux.
Ah oui, oui. Ah ben, c'est avec de grands chanteurs, puisque le rôle d'Armide est chanté par Stéphanie Doustrac, le rôle de Renaud par Cyril Ovitti, et en particulier dans le reste de la distribution, deux cantatrices bien connues chez nous, Marie Perbost et Victoire Bunel, qui chantent d'ailleurs des rôles musicaux multiples. Marie Perbos chante Sagesse, Phénix et Mélisse, alors que Victoire Bunel, elle chante Gloire, Sidonie et Lucinde. Donc c'est un beau moment que cet opéra de Lully, qui n'est pas si souvent donné, écrit sur un livret quand même de Philippe Quinault, d'après La Jérusalem délivrée du Tasse.
Oui, ça se passe au temps des croisades. Et voilà. Il y a un chevalier chrétien qui s'appelle Renaud, qui est retenu captif par la princesse de Damas, la magicienne Armide. D'où le titre. Et bon, vraiment, même si c'est une version concert, ça vaut le coup d'être découvert sur scène avec cette magnifique distribution et ce merveilleux ensemble porté par Vincent Dumestre.
Ah oui,
excellent ensemble, le poème harmonique.
Oui, c'est qui est en même temps un orchestre et un chœur.
Oui. Alors, un extrait d'Armide pour conclure cette présentation de la production de l'opéra de Jean-Baptiste Lully, que donne donc au Théâtre du Capitole le poème harmonique, l'ensemble de Vincent Dumestre, avec la mezzo-soprano Stéphanie Doustrac dans le rôle-titre. Un extrait d'Armide, l'opéra de Jean-Baptiste Lully, interprété par le poème harmonique, l'ensemble de Vincent Dumestre, avec la mezzo-soprano Stéphanie Doustrac, qui tient donc le rôle-titre dans la version concert que donnent les mêmes, ce dimanche 22 mars à 15h à l'Opéra National du Capitole. La billetterie est en ligne à l'adresse www.opera.toulouse.fr. Pour assister aux deux concerts du jeune pianiste Étienne Rale, vendredi 20 mars à 18h et samedi 21 à 16h à l'amphithéâtre d'Espax de l'Université Toulouse-Capitole, je rappelle qu'il faut obligatoirement réserver ses places, même si l'entrée est gratuite. Pour ce faire, je vous invite à vous connecter au site www.ut-capitole.fr. Concert du guitariste Carles Trépat, vendredi 20 mars à 20h à la salle du Sénéchal, dans le cadre de la saison Toulouse Guitare, et avec la jeune Dorine Guillebeau en première partie. Vous pouvez réserver et acheter vos places sur le site www.toulouseguitare.fr. Si vous voulez assister au concert en famille de l'Orchestre National du Capitole, Élodie Fondacci raconte Ma mère loi, dimanche 22 mars à 11h puis à 16h à la Halle au Grain. La billetterie est en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. Et enfin, même si deux concerts sont annoncés apparemment complets, vous pouvez renoter que la Maîtrise de Toulouse et les Passions de Montauban donne la passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach à Saint-Pierre-des-Cuisines, samedi 21 mars à 20h et dimanche 22 à 16h. La billetterie est accessible à l'adresse www.maîtrisedetoulouse.fr. Je remercie Serge Ozy de m'avoir assisté dans l'animation de cette émission. Merci aussi à Jonathan Botello, le réalisateur de ce numéro, dont le podcast est téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci pour finir à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Très bonne semaine musicale à tous.